Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonjour à tous. Aujourd'hui, les cours du Collège de France. Vous êtes docteur en médecine et docteur en sciences. Vous avez été chef du service de biochimie, biologie moléculaire de l'hôpital Saint-Louis à partir de 2009, puis directeur de l'unité de recherche pathologie virologie moléculaire et professeur de biologie moléculaire à l'université Paris Diderot à partir de 1995. Vous êtes membre de l'Académie des sciences et donc maintenant, depuis un an, vous êtes professeur au Collège de France, où vous occupez la chaire d'oncologie cellulaire et moléculaire. Merci beaucoup, Hugues Dottet, de nous recevoir ce matin. Alors, vous avez prononcé votre leçon inaugurale le 8 janvier 2015, qui a ouvert donc l'enseignement et les recherches liées à votre chaire. Comment devient-on le médecin que vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire un médecin qui tient à la fois ses études de médecine d'un côté, mais de l'autre côté aussi des recherches scientifiques de très haut niveau.
Écoutez, comme souvent en science, c'est un parcours qui doit beaucoup au hasard. J'ai eu une éducation un peu hachée, qui a commencé par une éducation américaine, puisque mon père était aussi un scientifique et qu'à l'époque où il était en stage postdoctoral aux États-Unis, j'ai passé six ans aux États-Unis, dont 2 ans au moins dans une école américaine.
Vous aviez quel âge ?
C'était de 1 an à 6 ans.
Ah, donc vous parlez l'anglais parfaitement ?
Oui, l'anglais est quasiment ma langue maternelle, oui. Voilà, je crois que cette expérience américaine m'a marqué dans l'approche de l'éducation, souvent simple, pragmatique et comme disent nos collègues anglais, to the point. J'ai ensuite une éducation française assez classique, avec une chose moins classique, qui est avant de commencer mes études de médecine, j'avais en fait fait des classes préparatoires en mathématiques et en physique. Donc deuxième grand saut qui a marqué mon éducation, c'est effectivement les mathématiques, la physique dans la grande tradition française. Et puis j'ai découvert qu'en fait j'aimais pas les mathématiques et donc après en avoir fait vraiment beaucoup et donc j'ai commencé la faculté de médecine à Lyon à la fin des années 70 et je crois que la grande révélation pour moi la faculté de médecine a vraiment été la découverte de la physiologie, évidemment dans la grande tradition de cette maison, la grande tradition de Claude Bernard. La physiologie qui cherche à comprendre finalement comment dans un organisme entier on régule le milieu intérieur, comment est-ce que confronté à des stress, comment confronté à des conditions extérieures extrêmes, l'organisme arrive finalement à maintenir une certaine uniformité grâce à toute une série de boucles de régulation. Et ça a été vraiment une illumination je crois que c'était en seconde année de médecine, de découvrir la physiologie, toutes ces boucles, comment est-ce qu'il existe des réflexes hormonaux, comment est-ce qu'il existe des hormones, des réflexes nerveux, qui vont permettre justement, confrontés à des situations extrêmes, de froid, de chaud, de carence hydrique, au contraire d'excès hydrique, que l'intérieur de l'organisme reste raisonnablement stable. Et ça, je crois que ça m'a très profondément marqué. Et puis, ce qui m'a marqué aussi dans ces études, c'est la capacité finalement d'explorer un être vivant, au moins dans certaines de ses fonctions, par des méthodes simples. Et qu'avec ces méthodes simples et des analyses simples aussi, des paramètres biochimiques, des paramètres nerveux, on allait pouvoir modéliser de manière assez simple et assez compréhensible au moins un certain nombre d'aspects de la physiologie. Alors ensuite, j'ai été à Paris et j'ai fait mes études à l'hôpital Necker, à partir de 80. Et là, la deuxième rencontre médicale vraiment importante a été la découverte de la néphrologie, la science des reins, avec un extraordinaire enseignant qui s'appelle Jean-Pierre Grunfeld, qui était un néphrologue tout à fait remarquable, très très connu, et qui finalement reprenait ce raisonnement physiologique, ce raisonnement bernardin, mais avec deux différences. La première différence, c'est que on raisonnait sur des cas pathologiques et assez souvent des situations d'hypertension ou des maladies rénales. Donc, on avait quitté la physiologie normale pour se pencher sur l'organisme malade. Et puis surtout, et ça m'a très durablement marqué, que son approche était marquée par le sceau du médicament. C'est-à-dire que le médicament allait perturber cette physiologie grâce à des choses qu'on comprenait parfaitement. On bloque un canal calcique, on bloque un réseau nerveux, on induit de la diurèse. Et au fond, la présentation qu'il faisait à ses étudiants de la thérapeutique était un peu comme un ordinateur dont on avait des boutons et on pouvait jouer sur tel bouton et il fallait toucher un peu la masse hydrique, diminuer un peu les résistances périphériques, tout ça avec des médicaments. Et c'était à la fois tout à fait satisfaisant intellectuellement, et puis surtout la grande découverte, c'était que ça marchait. Et que quand effectivement on traitait des patients, on voyait que chez les patients, tout ce qu'on avait prévu se passait, et surtout à la fin que le patient allait bénéficier de cette intervention, c'est-à-dire que la pression artérielle allait redescendre, et que ces patients allaient pouvoir mener ensuite une vie normale grâce à un traitement bien ajusté. Et ça a été vraiment une expérience extrêmement puissante, à la fois parce que ça montrait que le système marchait, que la physiologie était vraie, et pour moi qui suis quand même un scientifique, un fils de scientifique par nature, de montrer que le système est robuste et qu'il fonctionne, c'était extrêmement important. Et puis bien sûr, il y avait la joie de tout médecin, c'est qu'à la fin, le patient ressort debout et ressort guéri. Et ça aussi, dans ce domaine-là, beaucoup de patients ressortaient debout et ressortaient guéris. Et ça, c'était effectivement une immense satisfaction.
Hugues de Thé, alors vous écrivez que vous avez consacré votre carrière à la compréhension donc des mécanismes complexes et variés des pathologies humaines, en particulier dans le domaine du cancer et des leucémies, afin de déterminer de nouvelles stratégies de traitement plus rationnelles et plus efficaces. Vous expliquez que, en somme, le cancer est un système devenu anarchique et entièrement tourné vers la prolifération et la survie. C'est-à-dire que, au fond, les cellules malades survivent aux dépens des cellules saines. C'est bien ça?
Exactement. Cette image du désordre est assez parlante. L'organisme, et encore une fois dans la tradition de pensée de Claude Bernard, c'est le siège de l'ordre. En fait, tout est prévu, il y a d'extrêmement nombreux systèmes qui vont permettre d'assurer cet ordre, même dans des conditions extrêmes.
Des renouvellements cellulaires classiques.
Avec des boucles de régulation et puis un renouvellement cellulaire classique. Mm-hmm. Et puis, ceci est assuré entre autres par le patrimoine génétique et la qualité des empreintes épigénétiques. Et puis quand on vieillit, plus on vieillit, plus ce patrimoine génétique est susceptible d'être abîmé. Il est abîmé par des défauts de réparation, il peut être abîmé par des mutagènes, il peut être abîmé par le rayonnement solaire. Et donc plus on vieillit, plus cette intégrité du patrimoine génétique commence à se dissocier. Alors, il y a des tas de systèmes qui s'occupent de contrôler ça, mais de temps en temps, il va y avoir tellement de désordre dans le patrimoine génétique que certaines cellules ne vont plus être régies par cette homéostasie cellulaire et qu'elles vont se mettre à pousser. Elles vont se mettre à pousser, soit parce que leur machinerie, elles ont au fond un accélérateur sur la croissance qui est toujours bloqué, soit parce qu'elles ne savent plus mourir, soit parce qu'elles ne sont plus tuées par d'autres. Et finalement, le cancer, c'est ça. C'est un désordre progressivement acquis qui fait que des cellules ou un groupe de cellules ne vont plus être capables de rester à leur place et plus être capables de rester dans un nombre fixé.
Alors pardonnez-moi, je vous interromps parce que au fond, une des idées qu'on a sur le cancer, une des idées générales, est que plus on vieillit, moins le cancer est dangereux dans la mesure où les cellules se renouvellent moins vite. Et que, au fond, c'est dangereux d'avoir un cancer quand on est jeune, justement, et que les cellules prolifèrent à toute allure. C'est une fausse idée.
C'est vrai et c'est faux. Les tumeurs qui surviennent chez des sujets jeunes ont souvent tendance à être plus agressives, justement, parce que, on peut dire, avec une image un peu vitaliste, la force vitale est plus présente. En revanche, plus on vieillit, plus la probabilité d'être atteint par des troubles de type cancéreux est fréquente. Et des études épidémiologiques qui ont été menées dans les années 40-50 ont très bien montré qu'il y a une modélisation mathématique très simple et que l'incidence des tumeurs, toutes tumeurs confondues, est une puissance 4 à 6 de l'âge. Donc le cancer, et on sait tous autour de nous, c'est plutôt une maladie de la fin de la vie qu'une maladie du début de la vie. Ce qui ne veut pas dire que, ce qui veut dire qu'ils sont plus nombreux, oui. ils sont pas forcément plus agressifs.
Est-ce que c'est vrai que le tabac, disons les pesticides, le mode de vie favorise effectivement les cancers, ou est-ce que tout simplement on n'arrivait pas à diagnostiquer auparavant le nombre de cancers?
Écoutez, peut-être que dans les années 1700, on avait du mal à savoir ce qui était du cancer et ce qui était de la tuberculose. Depuis les 100 dernières années, on le sait très bien. Alors après, ce que nous apprend l'épidémiologie géographique, c'est justement qu'il y a des facteurs favorisants. L'épidémiologie géographique, ça consiste à comparer l'incidence et les types de cancers en fonction des régions. Et on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des disparités qui sont considérables. Et ça a été une des grandes manières d'entrer dans la réalité des causes du cancer. Et un certain nombre d'experts disent qu'aujourd'hui, au niveau du monde, probablement une grosse moitié des cancers sont évitables. C'est-à-dire qu'il y a des facteurs favorisants connus, et que ces facteurs favorisants connus peuvent être éliminés. Alors, évidemment, le prototype, c'est le tabac. Le tabac est certainement l'agent le plus cancérigène et l'agent le pire pour la santé publique qui a été inventé depuis la naissance
de l'homme. Et puis l'exposition aux rayons X, par exemple.
Mais les rayons X, on fait attention. C'est-à-dire qu'on fait plus, les radiologues ne mettent plus la main devant l'écran pour vérifier que l'écran marche. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ils ont fait ça tout à fait au début. Quand Marie Curie a découvert la radiologie, les radiologues avaient l'habitude de passer la main devant l'écran pour vérifier que l'écran était allumé.
D'ailleurs, Marie Curie est enfermée dans un cercueil de plomb, oui.
Voilà, et Marie Curie, effectivement, est morte du résultat de ses travaux, probablement d'une maladie leucémique. D'innombrables radiologues sont morts au début du siècle du fait de leur exposition aux rayons X. Mais quand on a compris ça, on a pris des mesures drastiques. Et vous savez, quand on fait une radio, le radiologue ou l'opérateur radio se protège derrière une grille métallique. Justement parce qu'on a compris ça. On a pu éliminer un certain nombre de causes, mais il reste encore des causes. Le tabac est certainement la cause facile à éliminer, la plus importante pour l'incidence des cancers. Après, il y a d'autres choses qu'on connaît moins bien. On sait que l'alimentation de type occidental va aussi favoriser un certain nombre de cancers, mais on ne sait pas exactement dans cette alimentation ce qui est mauvais. On sait que les Africains, par exemple, n'ont pas du tout les mêmes types de cancer que nous. Ils font très peu de cancer du côlon, ils font très peu de cancer de prostate en Afrique. Les Chinois et les Japonais ont aussi des types de cancers différents. Donc il y a quelque chose qui, dans notre mode de vie, va favoriser un certain nombre de tumeurs. Mais à vrai dire, aujourd'hui, on ne sait pas encore bien pourquoi. Et c'est tout le défi de cette épidémiologie géographique, c'est d'arriver à identifier des causes et ensuite, évidemment, une fois qu'on a identifié des causes, à les éradiquer. Ce qui pose des problèmes qui ne sont plus des problèmes médicaux, mais des problèmes, je dirais, presque sociologiques.
Politiques.
On sait que le tabac est une horreur depuis au moins 40 ans. Et les politiques anti-tabac ont été variables dans le temps, variables dans l'intensité. Et au fond, reste quand même un relatif échec.
Je vous raconter dans votre leçon inaugurale qu'Hippocrate utilise donc le mot carcinoma, crabe en grec, pour désigner les ulcères chroniques évolutifs et propose des cautères à base de pâte d'arsenic pour les traiter. Belle intuition de la part de l'Hippocrate.
Je suis toujours fasciné par le génie de nos prédécesseurs. Avec le corpus de connaissances qu'ils avaient, ils ont tout de même réussi à faire des choses qui marchaient de temps en temps, et puis des choses qui marchaient très bien. Quand on songe à toutes les réalisations architecturales des premières civilisations, je trouve qu'on ne peut être que béat d'admiration devant l'intelligence, la qualité, et puis la persévérance aussi de ces gens qui construisaient des choses dont ils savaient qu'ils ne les verraient pas forcément eux-mêmes, mais qu'elles seraient achevées parfois une ou deux générations d'après. Et effectivement, les premiers médecins ont bien décrit l'arsenic. Pourquoi ? Peut-être parce que c'était la seule chose qu'ils avaient. L'arsenic, c'est un produit extrêmement simple, hein, c'est un atome qu'on peut trouver dans la nature et qui a des effets majeurs. Alors, effets majeurs, évidemment, de toxicité.
On peut toutes sortes de romans policiers grâce à l'arsenic.
Mais alors, vous savez qu'une des raisons pour lesquelles l'arsenic a été si populaire, c'est qu'il n'a aucun goût. Et donc, c'est un des rares poisons qui n'a aucun goût. En revanche, les signes de l'intoxication à l'arsenic ou de l'empoisonnement à l'arsenic sont absolument caricaturaux. Et il suffit de relire Madame Bovary pour voir une description extrêmement fine de Flaubert qui avait vécu dans un hôpital et qui avait vu des empoisonnements et qui les décrit effectivement avec une admirable précision.
Mais Flaubert avait aussi la syphilis, ça, et on soignait la syphilis à l'arsenic.
Tout à fait.
Donc il connaissait bien les effets secondaires de l'arsenic.
Tout à fait.
Donc l'arsenic, ça sert à tout, finalement, à assassiner ses voisins, mais aussi à soigner donc le cancer.
Le cancer, il ne faut pas dire le cancer, ça soigne un cancer.
Donc alors voilà.
Qui est une maladie.
Est-ce que vous pouvez nous raconter cette aventure ? Donc c'est une leucémie en réalité.
Alors donc c'est une leucémie, donc une prolifération des cellules sanguines. Une parmi les très nombreuses leucémies. Il y a des dizaines et des dizaines de types de leucémies différents. À l'époque de Jean Bernard, à l'hôpital Saint-Louis, on parlait de la leucémie avec un L majuscule,
oui,
qui était le mal absolu à combattre. Et puis déjà du vivant de Jean Bernard, on a commencé à segmenter ces maladies sur des critères qui étaient des critères initialement de morphologie, hein, grâce à ce qu'on appelle la cytologie, en regardant les cellules. Puis en regardant les cellules leucémiques, on a pu voir qu'elles avaient des aspects très différents et que suivant leur aspect, l'évolution de la maladie était dans une certaine mesure prévisible.
Donc c'est tout à fait récent cette répartition des leucémies. Vous rendez hommage à Jean Bernard dans votre leçon inaugurale en disant que c'est grâce à lui au fond qu'on a découvert qu'il y avait beaucoup de leucémies différentes.
C'est grâce à lui et pas mal d'autres gens autour de la planète, mais disons qu'il a été le premier à faire ce qu'on appelle aujourd'hui de la médecine translationnelle, c'est-à-dire à mettre ensemble des médecins et des scientifiques, des chercheurs au même endroit, hein, sur le campus de Saint-Louis,
pour essayer de comprendre
effectivement les maladies sur lesquelles il travaillait et sur lesquelles il a eu une aura internationale considérable. Donc on commence par différencier ces leucémies par leur aspect, donc par ce qu'on appelle la cytologie. Et puis, assez vite, dès le début des années 60, on a pu voir qu'il y avait des anomalies chromosomiques qui étaient caractéristiques de certaines leucémies. Et effectivement, on découvre à ce moment-là, aux États-Unis, le chromosome Philadelphie. Le chromosome Philadelphie, c'est donc une translocation chromosomique récurrente et qui va être liée de manière extrêmement étroite à une maladie qui est la leucémie myéloïde chronique, une maladie qui était assez connue, déjà assez bien décrite à l'époque. Et donc, dès le début des années 60...
C'est une leucémie répandue, pardon ?
Assez fréquente. Elle est plus fréquente que celle sur laquelle je travaille. Et donc, on propose dès le début des années 60 qu'il y ait un rapport, finalement, entre cette anomalie de chromosome, donc une anomalie du patrimoine génétique, et puis le développement de la maladie. Et on arrive ensuite à, probablement dès le milieu des années 80, à découvrir qu'effectivement, il va y avoir des anomalies chromosomiques récurrentes et que celles-ci vont définir un type de maladie. Donc on arrive à l'idée qui s'est imposée maintenant, qu'au fond, une maladie va être définie par une anomalie chromosomique. Et que donc, le spectre à ce moment-là des maladies explose, puisque des anomalies chromosomiques, on en découvre des centaines. Et on se pose même la question de savoir s'il va y avoir deux leucémies identiques.
Mais c'est terrible, c'est-à-dire que plus on avance dans le savoir, plus tout se différencie et se dilue d'une certaine manière.
C'est toujours comme ça. Ça, c'est toujours comme ça. Et c'est ce qui fait que nous ne sommes pas prêts d'être au chômage. Mais c'est toujours plus on avance, plus on a de questions, hein, plus on ouvre de portes, plus on trouve d'autres portes après et d'autres pièces à découvrir. Et maintenant, donc maintenant, cette classification initialement morphologique, ensuite secondairement fondée sur des analyses chromosomiques, est fondée sur ce qu'on appelle des analyses de génomique. Et donc, par la séquence complète du génome, on va pouvoir décrire, cette fois-ci, toutes les anomalies qui vont différencier une cellule normale d'une cellule leucémique. Et on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup. On s'aperçoit même parfois qu'il y en a énormément. Dans certains cas, pas tellement dans les leucémies, mais dans les tumeurs solides, on a un véritable chaos génétique, tellement avec l'évolution de la maladie, ce patrimoine génétique va être endommagé, parce qu'une des cibles fréquentes des lésions génétiques dans le cancer, ce sont justement les systèmes qui vont assurer le maintien de l'intégrité du génome. Donc on a des systèmes qui vont permettre la réparation du génome, et ces systèmes de réparation du génome sont souvent altérés au cours de l'évolution des cancers, et donc parfois on va arriver au stade de la maladie avancée, celle qu'on va souvent diagnostiquer, avec un patrimoine génétique de la tumeur qui est extraordinairement endommagé, et ceci évidemment expliquant sa capacité à croître et à proliférer. Donc on a effectivement un saut quantique dans la complexité entre finalement cette vision un petit peu simpliste hein, d'une translocation chromosomique par exemple à l'origine de la maladie, et puis la vision que nous donne aujourd'hui la génomique de très profonds réarrangements, de très profondes anomalies, des mutations très nombreuses dans les cancers.
Est-ce que ça veut dire que, excusez-moi je vous interromps, mais ce sont des questions de d'ignorante. Est-ce que ça veut dire qu'au fond, chaque cancer est singulier ?
À l'extrême, oui. Alors c'est là où on en arrive à la notion d'ordre et de complexité. On sait aujourd'hui que ce nombre d'anomalies génétiques est extrêmement variable. Dans des tumeurs qu'on va dire simples, comme par exemple les tumeurs de l'enfant ou les leucémies, on va peut-être avoir moins de 5 anomalies génétiques. Donc on va être dans un contexte relativement simple. Donc un contexte où on peut essayer de comprendre. Dans d'autres tumeurs comme les mélanomes ou certains types de tumeurs du côlon, on va avoir plusieurs centaines d'anomalies génétiques. Et donc évidemment, là, aujourd'hui, ça pose des problèmes même d'approche expérimentale considérables, parce que finalement, dans ces centaines d'anomalies, quelles sont celles qui sont importantes ? Et on se trouve donc confronté à la fois à ce problème de complexité et puis à un problème de hiérarchie. Des hiérarchies, c'est-à-dire dans toutes ces anomalies, est-ce qu'il y a une anomalie maîtresse ? Est-ce qu'il y a des gènes maîtres ? Et est-ce que ces gènes maîtres, finalement, sont beaucoup moins nombreux que toutes les lésions qu'on voit ?
Oui, parce qu'il s'agit de déterminer des protocoles de soins, naturellement.
Tout à fait. Et là, on est exactement dans cette phase-là en ce moment. C'est-à-dire que le recensement des gènes maîtres est en train de se faire. Des travaux récents suggéraient qu'il y a probablement 150 gènes maîtres différents. Aujourd'hui. Alors peut-être qu'on va monter à 200 dans 5 ans, mais donc on est dans cet ordre-là, on est dans l'ordre de la centaine, et le nombre de gènes maîtres impliqués dans une tumeur individuelle va varier probablement entre 1 et 6. Mais ça génère quand même, comme vous l'imaginez, beaucoup de combinatoires, donc de vrais problèmes biologiques pour savoir comment, dans une tumeur donnée, ces gènes maîtres vont interagir les uns avec les autres.
Alors, il y a quand même, Hugues de Thé, des propositions de soins, disons, générales. Par exemple, moi j'avais suivi, enfin les auditeurs de France Culture avaient écouté certains cours du professeur Corvol qui proposait d'asphyxier les cellules cancéreuses. Alors, je ne sais pas ce qu'est devenu cette proposition en termes de médicaments, de soins, etc. Et puis, hier, on annonçait à grand renfort de publicité quelque chose qu'on savait déjà, c'est-à-dire qu'au fond, il fallait absolument travailler, renforcer le système immunitaire des malades. Ça, ce sont quand même des soins généraux qui peuvent être appliqués à tous les cancers.
Tout à fait, mais on est en pleine phase exploratoire. Alors les traitements avec des anti-angiogéniques ont été assez largement essayés.
Donc anti-angiogéniques, je rappelle à nos auditeurs,
c'est l'asphyxie
des cellules, voilà.
Et on est encore en train, je dirais qu'on est encore dans une phase de mise au point, de savoir à quel moment on doit utiliser cet outil. Et à quel moment c'est le mieux dans le protocole de traitement. À vrai dire, les anti-angiogéniques ont été effectivement développés pour asphyxier les tumeurs, mais finalement leur utilisation la plus euh, la, la, la plus courante et la plus efficace aujourd'hui, c'est dans le traitement des dégénérescences rétiniennes, dans le traitement de ce qu'on appelle la macula, donc des proliférations vasculaires, où là on a une efficacité formidable.
C'est récent, ça, alors.
C'est assez récent, mais les patients le savent bien. Et c'est l'exemple, je crois, prototypique d'une recherche fondamentale pour laquelle on a une première idée qu'on est encore en train de mettre au point, et puis on a une deuxième idée qui n'a rien à voir dans une maladie complètement différente et qui va s'avérer là radicale. Parce que dans un certain nombre de ces maladies dégénérescentes...
Pardonnez-moi, je vous interromps, mais c'est passionnant, évidemment. Vous affirmez dans votre leçon inaugurale et dans vos travaux en général que, en fait, le cancer a ceci d'extraordinaire, c'est qu'il permet justement d'explorer pratiquement tous les domaines de la médecine la plus pointue aujourd'hui, enfin.
C'est vrai que le cancer étant une maladie du désordre, eh bien ce désordre va pouvoir toucher tous les systèmes cellulaires. Et le cancer a été finalement une des grandes manières d'entrer dans ce qu'on appelle aujourd'hui la biologie cellulaire, c'est-à-dire d'arriver à comprendre au niveau d'une cellule comment elle va être organisée dans le trafic de ses protéines, la distribution de ses protéines, son mouvement, sa fluidité, les relations avec les forces physiques, l'organisation, la sectorisation des protéines et des réactions chimiques au sein de la cellule. Eh bien, toute cette biologie cellulaire a été extraordinairement éclairée par la biologie de la cellule cancéreuse, justement parce que la cellule cancéreuse est souvent anormale sur à peu près tout, et que donc en essayant de comprendre ces anomalies, eh bien, on va pouvoir rentrer dans ce fonctionnement extraordinairement normal, extraordinairement réglé, d'une magnifique beauté intrinsèque de la cellule normale, comme de l'organisme normal.
Alors, pardonnez-moi, je vous ai interrompu en pleine explication de l'utilisation de l'arsenic dans certaines leucémies. Je sais, enfin, comme nous sommes arrivés ce matin, vous étiez en vidéoconférence avec des collègues chinois. Vous avez travaillé avec une équipe chinoise, justement, sur cet arsenic, enfin, sur l'utilisation de l'arsenic dans certaines leucémies. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé? Comment vous avez, au fond, été amené à découvrir tout ce processus? Et comment, finalement, on arrive à en faire un médicament de l'arsenic?
Alors, peut-être qu'avant de parler de l'arsenic, il faut que je vous dise quelques mots sur la méthode que j'ai privilégiée et qui vient de ces deux expériences extrêmement fortes que j'ai eues comme jeune étudiant en médecine. À la fois de la puissance de la dissection de la physiologie normale par les médicaments et d'observation que beaucoup de ces médicaments ayant des effets très puissants au fond, ne répondait pas à des modes d'action connus, et que le mode d'action connu a été découvert très longtemps après. Et donc, après avoir terminé mes études de médecine, j'ai eu la chance d'aller dans un laboratoire extrêmement prestigieux, qui était de l'Institut Pasteur, qui était le laboratoire de Pierre Thiollet, qui était vraiment un laboratoire de pointe sur le génie génétique, où on maîtrisait parfaitement... Oui. Toutes les techniques de clonage et de séquences qui sont des techniques qui sont maintenant courantes, automatisées, mais qui à l'époque étaient du tout manuel, du tout fait main, et qui répondaient à des protocoles très très élaborés, qui étaient parfaitement maîtrisés dans le laboratoire de Pierre Thiollet. Et donc, en travaillant avec Anne Dejean, j'ai eu la chance de pouvoir découvrir un peu par hasard, finalement, certaines protéines importantes, et en particulier un récepteur à l'acide rétinoïque. Donc l'acide rétinoïque, c'est une hormone très importante dans le développement embryonnaire, très importante dans la différenciation cellulaire en général, pour le passage d'une cellule souche à des cellules différenciées. Il y a une énorme littérature de biologie du développement sur l'acide rétinoïque. Là aussi, on connaissait le produit. C'est une hormone, c'est pas un médicament, donc un produit naturel. On n'avait pas la moindre idée de la manière dont il agissait. On pensait qu'il allait agir sur des protéines situées à l'intérieur du noyau, qu'on appelle des facteurs de transcription, donc des protéines qui vont se fixer sur l'ADN et permettre d'allumer l'expression d'un certain nombre de gènes. Donc c'est un petit peu comme un commutateur arrêt marche qui, quand il est activé par l'hormone, va permettre de mettre en route un programme d'expression génétique qui va conduire à la différenciation. Donc ces récepteurs à l'acide rétinoïque, on ne les connaissait pas. On connaissait encore une fois simplement la petite molécule, l'hormone, qui sert de bouton à remarche. Et puis on l'a découvert donc un peu par hasard en, en étudiant un cancer du foie, où justement il y avait une insertion de virus, de l'hépatite B, qui était évidemment la grande spécialité du laboratoire de Pierre Thiollet, qui s'était inséré à proximité d'un de ces récepteurs, puisqu'il y en a effectivement trois, et que donc un peu par hasard nous avons découvert l'un des trois. Et ceci donc nous a amené évidemment à nous intéresser beaucoup à l'acide rétinoïque, dont encore une fois on ne savait rien, puisque c'était pas du tout ce qui nous intéressait au départ. Ce qui nous intéressait au départ, c'était de comprendre comment le virus de l'hépatite B pouvait s'intégrer dans le génome et comment ces intégrations pouvaient être à l'origine de son pouvoir cancéreux qui est majeur, hein, aussi. D'ailleurs, une petite parenthèse sur le virus de l'hépatite B, c'est aussi un magnifique exemple de prévention. Des travaux épidémiologiques ont montré que ce virus était un virus qui allait provoquer les cancers. Et c'est une situation qui est extrêmement fréquente en Chine et en Afrique noire. Et l'obtention, entre autres, par l'équipe de Pierre Thiollet à l'Institut Pasteur d'un vaccin a permis maintenant des campagnes de vaccination massives, presque à l'échelle du monde, qui font que peut-être dans une génération, l'hépatite B ne sera qu'un mauvais souvenir, alors que en Chine en particulier, où la transmission se faisait de la mère à l'enfant, il y avait de véritables malédictions, hein, qui couraient dans des familles où ce virus finalement se transmettait de mère à enfant sur des générations et des générations, et exposait au développement de cancers redoutables, qui étaient donc vus comme une espèce de malédiction, hein, dans ces familles, qui couraient de génération en génération. Donc voilà aussi un exemple.
Idem pour le vaccin d'ailleurs du papillomavirus, que toutes les jeunes filles devraient au fond recevoir d'emblée.
Ça, c'est un problème de santé publique qui est, oui, certainement, hein, mais la protection contre le papillomavirus n'est pas totale, alors que la protection contre l'hépatite B est presque totale. Donc il y a une assez grosse différence, hein, en termes de santé publique.
Bien sûr, oui.
Hein, puisqu'il reste quelques souches qui aujourd'hui, je crois, ne sont pas couvertes par les vaccins. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas les utiliser. Mais disons qu'en termes de santé publique, l'exemple de l'hépatite B est plus frappant, parce que là, on a une protection presque totale.
Oui. Et on peut éradiquer vraiment la maladie
on peut empêcher qu'elle se développe, et je pense que l'éradication de l'hépatite B est possible. Bon, il faudra probablement encore peut-être deux générations, hein, mais on peut imaginer qu'on arrive à éradiquer la maladie, et avec ça cette redoutable conséquence, hein, qui était le développement des cancers du foie. Donc tout ça pour vous dire, et je crois que c'est important, c'était très important pour vos auditeurs de comprendre que les découvertes de rupture sont toujours des découvertes inattendues. Et c'est pour ça que de vouloir avoir un pilotage trop précis de la recherche, et en particulier un pilotage sur des questions de santé ou sur des questions de société, est quelque chose qui me paraît extrêmement dangereux. Parce que l'expérience prouve depuis 200 ans que toutes les découvertes qui ont vraiment changé, les découvertes de rupture, y compris dans le domaine de la santé, était presque toujours inattendu. Et on n'a jamais demandé à Fleming de faire de la pénicilline.
Et en même temps, comme vous le soulignez, comme vous le rappelez dans votre leçon inaugurale, Pasteur disait que ces hasards étaient possibles à des esprits qui étaient formés justement pour les reconnaître naturellement.
Donc il faut une
formation de pointe et en même temps jeu possible avec le hasard.
Exactement. Et puis, il faut être prêt, il faut avoir le temps, il faut avoir effectivement une disponibilité d'esprit pour voir ce qui ne colle pas.
Parce que les financements de la recherche ne comprennent pas toujours.
Pas toujours, et c'est extrêmement regrettable. C'est malheureusement pas une spécificité française, mais je pense que c'est vraiment une profonde erreur et que la recherche doit être financée à un niveau correct et ne doit pas être strictement limité à des questions de société ou des questions de santé, parce que encore une fois les grandes découvertes qui ont révolutionné la prise en charge thérapeutique n'ont pas été faites forcément par des gens qui s'intéressaient à ce qu'ils ont trouvé. Encore une fois, Fleming ne cherchait pas la pénicilline, c'était un bactériologiste. Et justement, bien sûr, à une bien moindre échelle, mais l'exemple que je viens de vous citer l'illustre aussi. En travaillant sur le cancer du foie, en travaillant sur le virus de l'hépatite B, finalement, a conduit à la découverte d'un récepteur à l'acide rétinoïque qui n'était pas du tout ce qui était attendu, mais qui nous a néanmoins, compte tenu de l'importance de cette signalisation dans l'organisme, conduit à nous intéresser à cette thématique qui était complètement nouvelle, mais néanmoins porteuse de beaucoup de choses, et en particulier avant l'arsenic, qui nous a permis de donner une base moléculaire à la compréhension d'une leucémie, une leucémie très particulière qui s'appelle la leucémie promyélocytaire, dont des collègues chinois avaient justement montré qu'elle était sensible à l'acide rétinoïque. Et ça, c'était une observation très inattendue, qui s'appuyait sur des travaux antérieurs d'une équipe américaine qui avait montré que ces cellules de ce sous-type de leucémie rare effectivement étaient capables d'avoir un changement morphologique profond, ce qu'on appelle de la différenciation, en réponse à cette hormone. Et puis pour diverses raisons, la transposition chez les patients n'avait pas pu se faire, probablement parce que les hématologistes n'avaient pas utilisé les bonnes molécules à l'époque. Et donc ses collègues chinois, le professeur Wang Zhangyi, va utiliser l'acide rétinoïque dans sa forme naturelle, sa forme hormonale, et va voir ensuite donc la différenciation de ces cellules avec une disparition transitoire malheureusement, mais quand même sur plusieurs mois, de la maladie. Alors ça a été une véritable révolution. D'abord parce que c'était complètement inattendu, et puis parce que plutôt que de chercher à tuer la cellule leucémique, on cherchait finalement à la rééduquer. Ça, c'était une des grandes thématiques de Laurent de Gauss.
À la renormaliser,
finalement. Et un peu dans cette idée que j'évoquais au départ, d'avoir un certain nombre de boutons. Et en touchant un des boutons, on arrive finalement à faire que cette cellule change de forme et qu'une cellule qui était par essence immortelle, comme le sont les cellules cancéreuses, devienne mortelle et donc disparaisse. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, et on sait que les traitements à l'acide rétinoïque tels qu'ils ont été faits ont donné, dans la plupart des cas, des rémissions transitoires, mais des rémissions qui étaient quand même extraordinaires, spectaculaires, puisque un patient qui était leucémique et qui allait mourir rapidement, eh bien, repartait debout et menait souvent plusieurs mois de vie normale sans autre traitement avant de rechuter. Et donc ça, c'était une observation extraordinaire. Et ça entrait typiquement dans ce cadre intellectuel que je vous ai exposé au départ, du produit chimique qui fait quelque chose d'extraordinaire et qu'on ne comprend pas. Et donc, un certain nombre de groupes dans le monde ont cherché à comprendre ça. Et cette compréhension s'est trouvée finalement illustrée par la découverte de l'anomalie causale de cette maladie, qui est une fusion entre deux gènes, dont l'un est le récepteur à l'acide rétinoïque. Et donc ça, c'est quelque chose qui, en France, a été fait par Anne Dejean, Laurent de Gauss et moi-même à la fin des années 80. Et donc, on était maintenant sur une logique assez linéaire qui était claire. On a une certaine morphologie, on a une translocation chromosomique. Cette translocation chromosomique va donner une protéine anormale, protéine de fusion donc qu'on a baptisée PMLRAR. Et cette protéine PMLRAR va être directement liée à la sensibilité à l'acide rétinoïque. Alors ça, c'était assez extraordinaire, parce que ça voulait dire que l'acide rétinoïque agissait sur cette protéine anormale qui justement comprend son récepteur. Et donc c'était historiquement le premier exemple de ce qu'on va appeler une thérapeutique ciblée, c'est-à-dire une thérapeutique où le médicament va agir exactement sur une seule protéine qui est justement celle responsable de la maladie. Et ça répondait finalement à une logique chinoise, encore une fois, bien exposée par un théoricien militaire qui s'appelait Sun Tzu.
Oui, le fameux.
Le fameux Sun Tzu, voilà, qui a écrit tout cet ouvrage qui a profondément marqué le monde chinois.
Sur l'art de la guerre.
Sur l'art de la guerre. Et dans l'art de la guerre, il explique qu'au fond, le but de la guerre, ça n'est pas de tuer l'armée. Le but de la guerre, c'est de s'attaquer à la pensée de l'adversaire. Et la pensée de l'adversaire, c'est souvent la pensée du général. Et donc, il y a cette idée dans la théorie militaire chinoise que si on arrive soit à tuer le général, soit à défaire sa pensée ou à casser ses plans, à ce moment-là, tout s'effondre et la guerre est gagnée. Et surtout, Sun Tzu était un homme très économe de vie humaine et explique que moins on tue de soldats, mieux c'est. Et que finalement, le sublime art de la guerre, c'est d'arriver à détruire le plan de l'ennemi. Parce que quand on touche le plan de l'ennemi, tout s'effondre et on n'a pas besoin d'attaquer l'armée. Voilà, c'était finalement un bel exemple de ça. On a une maladie qui est liée à un événement simple, monogénique, qui est une protéine de fusion. Et cette protéine de fusion va être directement ciblée par ce médicament. Et ça explique évidemment que cet acide rétinoïque soit extraordinairement efficace dans cette toute petite maladie qui touche 100 personnes par an en France, mais n'ait aucune efficacité dans aucune autre. Et ça, c'était évidemment une prédiction extrêmement forte de cette notion de thérapeutique ciblée, parce que justement, parce que dans les autres maladies, le récepteur à l'acide rétinoïque est normal, et donc on a beau le stimuler, ben, il ne se passe pas grand-chose, du moins pas grand-chose en première approximation. Il se passe peut-être des choses, mais rien à voir avec ce miracle hein, où vous avez une cellule leucémique ou une patient leucémique chez lesquels la maladie va disparaître en quelques semaines.
L'idée d'associer de l'arsenic à cet acide est venue comment ?
Alors, peut-être avant de parler de ça, il faut parler de l'arsenic.
Oui.
Donc, premier miracle, hein, si j'ose dire, une expérience clinique, finalement, qui est de donner de l'acide rétinique, de donner une hormone à des patients et de voir que ces patients guérissent sous vos yeux, par un mécanisme qui, encore une fois, n'est pas de la mort, mais est une espèce de rééducation. Hein, ce qui, là oui. aussi, était une idée qui avait été fortement poussée par Laurent de Gauss. Et ensuite,
remettre de l'ordre dans du désordre,
voilà. Et dans une large partie, on verra que c'était vrai. Et puis, finalement, peu de temps après, la même équipe chinoise, à l'occasion d'une mission que j'effectuais à l'hôpital Ruijin en début 95, Wang Zhangyi, qui était devenu un ami, et son élève Chen Su me disent, tu sais, Hugues, on a trouvé autre chose. On a trouvé autre chose. Qui vient des mines, et ça a l'air de marcher encore mieux, et on voudrait bien travailler avec toi pour comprendre comment ça marche. Et ça, ça a été le début d'une collaboration de 20 ans avec cette équipe, donc à l'hôpital Ruijin à Shanghai, qui a commencé par en fait l'envoi d'un de leurs étudiants, Jun Su, qui est un jeune étudiant en médecine, et qui est venu avec des ampoules d'arsenic, hein, celles que vous pouvez voir là encore sur l'étagère de mon bureau, pour essayer de comprendre comment cet arsenic pouvait fonctionner et pourquoi on avait encore ce miracle, parce que là aussi, des extraits purs d'arsenic étaient capables de mettre ces patients en rémission de manière qui semblait très, très similaire à l'acide rétinoïque sur le plan clinique, avec aussi de la différenciation. Et puis des travaux ultérieurs ont montré que finalement, contrairement à l'acide rétinoïque qui ne guérissait jamais seul, l'arsenic, lui, guérit tout seul. Donc la monothérapie par l'arsenic dans cette maladie-là est capable de guérir à peu près 70% des patients de manière définitive. Et ça a été très bien montré par des travaux chinois, des travaux indiens, des travaux iraniens aussi. Et avec la même spécificité. Avec la même spécificité, c'est-à-dire que l'arsenic va être miraculeux dans cette maladie et en fait ne rien faire sur les autres. Et donc ça a été la première grande découverte faite avec ses collègues chinois. C'est qu'il y a aussi un ciblage de PMLRAR par l'arsenic. Alors ce ciblage, il est un petit peu différent de ce qu'on avait vu avec l'acide rétinoïque. Avec l'acide rétinoïque, je vous expliquais que l'hormone se comporte finalement comme un bouton arrêt marche. Mm-hmm. Donc on va avoir une protéine qui est au fond dans une position qu'on pourrait dire arrêt, et en fixant l'hormone sur cette protéine, elle va changer de forme, elle va passer en position marche. Et donc on pensait que c'était ce passage... qui allait être responsable de l'effet thérapeutique. Alors l'arsenic ne fait pas ça du tout. L'arsenic ne fait pas ça du tout, mais ce qu'on a découvert avec Chen Su et Jun Su, c'est qu'en fait l'arsenic va détruire la protéine. Donc là, c'est plus une reconfiguration, c'est une destruction. Mais évidemment, détruire la protéine, ça permettait d'expliquer l'effet thérapeutique, puisque dans le modèle linéaire que je vous ai exposé, on a une protéine qui est capable d'induire une maladie. Si on détruit la protéine, eh bien la maladie, logiquement, devrait s'effondrer. Et c'est exactement ce qui se passe. Et en fait, on a découvert peu de temps après que l'acide rétinoïque a une double fonction. Non seulement il fait passer de la position arrêt à la position marche, mais si on en met beaucoup, il va aussi dégrader la protéine, il va aussi détruire la protéine. Et donc on avait trouvé finalement, sur la base d'un empirisme absolu, une propriété commune qui était que ces deux médicaments qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, hein, l'un est une hormone dérivée d'un lipide, l'autre c'est un atome, mais ces deux molécules ont la même propriété d'être capables de détruire très spécifiquement la protéine à l'origine de la maladie. Et donc on a fait le pari, ça c'était dans les années 95.
C'est une expérience de pensée en fait.
Oh, c'est de l'empirisme. C'est... Ouais. Mais après effectivement il a fallu changer le mode de pensée, parce que toute la communauté mondiale pensait que c'était la réactivation des fonctions transcriptionnelles qui était importante. Et on a été les premiers à proposer, je dois dire au départ, dans un grand désert intellectuel et soumis à des remarques pas forcément très sympathiques des collègues, que la destruction était responsable de l'effet thérapeutique. Et donc Valérie Lallemand a été la première à utiliser un modèle animal pour savoir si effectivement il fallait donner les deux médicaments ensemble. Alors ça, c'était très simple. Hein. En gros, si la piste était vraiment la dégradation, eh bien, à ce moment-là, les deux médicaments devaient être synergiques. Si la piste, au contraire, était la rééducation à travers la reprise du contrôle de l'expression génétique, on s'attendrait au contraire là à ce que les deux médicaments soient antagonistes. Et ce qu'elle a pu montrer chez la souris, et c'est un des premiers exemples où des modèles animaux de cancer ont été vraiment aussi puissants, c'est que chez la souris, il y a une extraordinaire synergie. Et c'est probablement le seul exemple hein, dans la littérature où ça marche aussi bien. Mais en combinant acide rétinoïque et arsenic, on arrive à éliminer toute cellule leucémique en moins d'une semaine.
Moins d'une semaine ?
Chez la souris.
C'est extrêmement rapide.
Et donc c'est extrêmement rapide. On a un véritable effet antibiotique, en fait. C'est quasiment comme quand on met de la pénicilline sur une culture de bactéries. On liquide tout chez la souris en quelques jours.
Alors, j'ai encore deux questions à vous poser, Hugues de T. La première, c'est sur quoi travaillez-vous actuellement ? Et d'autre part, le travail que vous faites au Collège de France avec vos collègues. Parce que, évidemment, on pense à la chaire que tient Edith Heard, d'épigénétique, de mémoire cellulaire, qui doit être, au fond, en première ligne dans les recherches que vous conduisez. Donc, comment est-ce que vous travaillez avec vos collègues du Collège de France?
Edith est une amie et cette année, nos deux chaires organisent un colloque annuel consacré justement aux problèmes épigénétiques dans les cancers et dans les leucémies. Voilà, un exemple de convergence. Donc, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, au fond, c'est de faire de la science sur ce modèle. Ce que je vous ai pas dit encore, c'est que finalement cette observation de l'extraordinaire synergie entre les deux médicaments a été transposée de la souris à l'homme. Ça a pris pas mal de temps, mais ça s'est fait. Et ça a montré effectivement que ça marche et qu'on est capable, avec les deux, de guérir cette maladie sans chimiothérapie. Ce qui est le premier et le seul exemple d'un cancer.
C'est sans doute un début d'ailleurs.
J'espère que c'est un début, mais c'est le seul exemple où on peut guérir sans chimiothérapie et de manière définitive.
La chimiothérapie fatigue énormément l'organisme.
Bien entendu, oui. Puis elle est non spécifique. Elle va en gros s'attaquer à tout ce qui pousse vite. Donc dans ce qui pousse vite, il y a la tumeur, mais il y a aussi des tas de choses. Il y a les cheveux, il y a les cellules intestinales, il y a beaucoup de choses. Là, on a vraiment probablement le paradigme du traitement ciblé. Quasiment sans effet secondaire. Une guérison à la clé assurée. Bon, donc, compte tenu de l'importance, nous, on a voulu se plonger dans le mécanisme. Et ce mécanisme, finalement, il a été abordé de deux manières. Une des manières a été développée par Valérie Lallemand dans l'équipe, où elle a voulu faire la biochimie de la dégradation. Dire que ça se dégrade, c'est bien, mais c'est mieux de comprendre comment. Et donc, elle a pu déterminer les différentes étapes de la dégradation, comment ça se passe au niveau biochimique. Et ça lui a permis de découvrir une nouvelle voie de dégradation protéique, qui passe par des protéines sumo, montrant que même sur des problématiques en apparence très appliquées, on peut arriver à faire des découvertes très fondamentales. Et ce qui est important, c'est de maintenir le passage entre les deux. Donc de la biochimie, qui a permis d'ailleurs de montrer que l'arsenic cible spécifiquement PML, donc vous voyez, l'acide rétinoïque cible spécifiquement son récepteur, mais l'arsenic, lui, cible spécifiquement l'autre partenaire. Donc en fait, on a deux médicaments ciblés qui vont chacun taper sur un des constituants de cette protéine de fusion. Et puis l'autre chose, c'est de comprendre ce qui se passe dans un organisme. Et donc pour ça, on a mené pas mal de travaux chez la souris pour essayer de comprendre maintenant, encore dans une problématique assez bernardienne, on a une maladie, on sait la faire guérir, mais on veut savoir ce qui se passe quand elle guérit. Qu'est-ce qui se passe exactement? Quels sont les relais? Quelle est la cascade? Donc on sait que la cascade, elle débute par la destruction de PMLRAR, mais après, il y a toute une série d'étapes qu'on voudrait identifier au niveau individuel. Et donc là, on a impliqué en particulier une protéine qui s'appelle P53, qui est une protéine très importante dans le cancer, qui est mutée dans la moitié des cancers. Puis maintenant, on est en train de travailler pour comprendre ce qui se passe au niveau cellulaire. Est-ce que ces cellules meurent finalement? Est-ce qu'elles deviennent trop vieilles? On appelle ça sénescente. Ou est-ce que simplement elles s'arrêtent de pousser et elles sont mangées par les autres? Il n'y a pas beaucoup d'exemples où on puisse arriver comme ça à disséquer exactement au niveau moléculaire ce qui se passe, et c'est ce qui nous occupe aujourd'hui. Et puis également d'essayer d'étendre finalement ces modèles.
Oui, c'est ça, ça va l'élargir. Hein.
Dont on n'a pas de prétention de penser qu'ils soient généralisables à toutes les tumeurs.
Hein. Ils peuvent tout de même proposer des pistes nouvelles. Oui.
Et parmi les pistes, il y a d'autres maladies sur lesquelles on travaille en collaboration avec des groupes, en particulier au Liban et puis aussi en Italie.
Lesquelles?
Au Liban, on travaille avec un de mes anciens élèves qui s'appelle Ali Bazarbashi, qui est responsable du centre anticancéreux de Beyrouth et qui travaille sur une maladie liée à un virus. Alors, c'est pas l'hépatite B, c'est un virus qui s'appelle HTLV1 qui va provoquer des leucémies. Et on a élaborer un modèle avec lui où, là encore, une protéine du virus peut être dégradée par un mécanisme qu'on a identifié, et ça, c'est accompagné d'effets cliniques bénéfiques. Donc voilà, donc on cherche sur des niches, hein, c'est une approche de niche. Hein, encore une fois, l'approche qui a été la nôtre, c'est d'essayer de cibler les événements oncogéniques, et en particulier à travers la dégradation des protéines maîtresses. Je prétends pas du tout que ce soit la voie universelle,
Bien sûr. Je pense
par contre qu'il y a peut-être plus que le miracle de la promyélocytaire. On devrait arriver à trouver quelques autres maladies où ça puisse s'appliquer. Et donc, pour répondre à votre question, le Collège de France est un endroit merveilleux où on peut vraiment dialoguer avec des collègues d'autres disciplines, avec des chimistes, avec les autres biologistes, avec les sciences humaines. Et c'est, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'autres endroits en France ou même dans le monde où on puisse avoir ce niveau de qualité d'échange et de relations.
Est-ce que dans le cancer, les sciences humaines sont importantes? Je pense que oui, parce que tout le monde a l'air de dire qu'au fond, l'état d'esprit d'un malade est pour beaucoup dans sa guérison.
Alors, c'est possible. Je me suis jamais vraiment intéressé au problème. J'ai parfois une vision un peu plus physiologique. Je ne voudrais pas du tout heurter les sciences humaines, mais le cancer, c'est l'anarchie. Et que ces proliférations anarchiques libèrent des substances qui soit capable d'avoir des effets sur la psychologie, est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Je pense que ça existe, mais encore une fois, là, c'est vraiment, c'est purement intuitif, mais je ne serais pas étonné qu'on puisse un jour le découvrir, voilà.
Alors, donc, vous travaillez surtout au Collège de France Hugues de Thé avec Edith Heard.
Et puis aussi, on a des points communs d'intérêt avec Alain Prochian, qui étudie la neurodégénérescence, par exemple, à travers la Parkinson. Et on s'aperçoit finalement que certains des mécanismes de mort qu'on peut voir dans les maladies neurodégénératives sont finalement pas si éloignés des mécanismes de mort qui sont bloqués dans le cancer. Et donc, il y a des convergences, je crois qu'il y a des convergences que je souhaite pouvoir développer avec l'équipe d'Alain, dans lesquelles finalement ces mécanismes qui sont bloqués dans le cancer pourraient être hyperactivés dans les maladies neurodégénératives, mais faire du mécanisme finalement permet de voir aussi bien l'excès dans un sens que le défaut dans l'autre. Et ce sont probablement des mécanismes qui sont assez largement partagés.
Et donc il y a des ouvertures inouïes.
Je crois que la science nous donne aujourd'hui des ouvertures inouïes. Je crois qu'il faut préserver la liberté des chercheurs, qui est assez rudement mise en défaut aujourd'hui avec des contrats administratifs sans nom qui nous tombent dessus, d'une manière qui me semble tout à fait déraisonnable. Et puis, il faut maintenir aussi le financement de la recherche fondamentale, qui là aussi est assez durement mise à mal. Avec, je pense, la fausse idée qu'en détournant le financement vers des problématiques sociétales, on va pouvoir faire des grandes avancées. Je pense que c'est une profonde erreur. Je pense qu'il faut financer de la recherche fondamentale de très bonne qualité. Et puis, il faut avoir aussi des gens qui ont les deux cultures que j'ai la chance d'avoir acquises dans ma formation, et qui permettent de sauter de l'un à l'autre, qui permettent, dans une situation de maladies, par exemple, ou de réponses thérapeutiques, de voir comment on peut faire de la science, et puis inversement, quand on fait de la science, de voir...
De penser aux effets médicamenteux possibles.
Est-ce qu'on peut pas, voilà...
Comment peut-on guérir quelqu'un?
Est-ce qu'on peut, voilà, guérir quelqu'un? Est-ce qu'on peut retransposer ça, finalement, dans le contexte d'une maladie? Et je crois que c'est vraiment dans ces échanges qu'on va trouver la solution. Et si j'ai encore quelques minutes, je crois qu'il serait... Il est important... dans tous les pays étrangers ont monté des filières d'études qu'on appelle MD-PhD. Alors, MD-PhD, ça veut dire Medical Doctor, Doctor in Philosophy. Ça veut dire, en gros, être médecin et être scientifique, être un vrai médecin et être un vrai scientifique.
Et ça paraît nécessaire de pouvoir tenir les deux en même temps.
Mais ces filières-là, finalement, n'existaient pas en France. Elles ont été fondées par l'INSERM, grâce à Christian Bréchaud, et grâce au soutien de la Fondation Bettencourt, qui a financé intégralement ce programme pendant 10 ans.
Fonds privés.
C'est des fonds privés. Et il a fallu que des fonds privés et un organisme de recherche, qui normalement n'est pas impliqué dans la formation, viennent pour essayer de combler ce vide. Alors ce vide est en train de commencer à se combler, mais je crois que c'est extrêmement important d'avoir des filières. Il y a des esprits extrêmement brillants en France, il y a des gens remarquablement intelligents, il y a des gens qui travaillent beaucoup. Il faut leur offrir la possibilité d'avoir ces deux formations, et puis aussi ensuite leur offrir le temps. Le temps de faire de la médecine, et pas de faire de la médecine 70 heures par semaine, et le temps de faire de la science. Et la science, c'est très prenant. Donc, on n'a pas encore trouvé bien en France
l'équilibre
entre les deux qui a été trouvé dans beaucoup de pays étrangers où la part clinique, finalement, peut varier de 100% à 5%. Et en France, on a un peu de mal encore à mettre ça au point, parce qu'on aime bien les cases carrées, on aime bien les...
D'autant que la recherche française se porte bien, si je vous entends bien.
Il y a de la très bonne recherche en France. Il y a de la très bonne recherche en France.
Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Merci, docteur.
Merci à vous.
Merci pour tout ce que vous faites pour la recherche et pour la santé des gens.
Je ne suis pas le seul, et c'est une très grande satisfaction.
C'était Éloge du savoir, le Collège de France, avec aujourd'hui Hugues de Thée, titulaire de la chaire d'oncologie cellulaire et moléculaire. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation, Anne Sécheret. Présentation, Christine Goémé. Rendez-vous la semaine prochaine avec John Shedd, titulaire de la chaire Religion, Institution et Société de la Romantique. Belle journée à tous, à l'écoute de France Culture.